Bonjour, vous écoutez l'autre radio, c'est l'heure de l'agité du local. C'est Joël, je vais prendre en charge cette agité du local, car Margot, pour raison de santé, ne peut pas assurer le direct. Mais ces reportages étaient déjà prêts, donc je vais simplement vous les diffuser. Nous allons débuter avec l'interview de Loïc Méjean pour le Festival des 37 qui a lieu ce week-end. Suivi du reportage Pensée locale, qui a été réalisé par JetFM, sensibilisation, créer du lien entre entreprise et monde agricole. Et pour finir cette agité du local un peu spécial, vous avez rendez-vous avec la chronique du FC Que Choisir avec Jean-Michel Guinaudot.
Il y a des festivals qui ressemblent à des défilés de mode et puis il y a ceux qui ressemblent à un territoire. Le Festival des 37, lui, appartient à cette deuxième famille, un festival qui émerge même directement de ce territoire, qui s'installe là où vivent les gens, là où on ne s'attend pas toujours à croiser une caméra ou un plateau de tournage. Un festival fait de rencontres, d'inventions, de voix qui n'avaient jamais vraiment trouvé où se faire entendre avant. Et chaque année, ce sont les habitants des communes du Pays de Cran qui écrivent, filment, joue, raconte, et ce n'est pas seulement dans l'idée de faire du cinéma, mais aussi pour créer du lien. Il y a derrière tout ça un vrai travail social, artistique, humain et une équipe qui tisse tout ça avec une grande délicatesse. Aujourd'hui, on en parle avec Loïc Méjean, l'un des artisans essentiels du festival. Il coordonne, accompagne les ateliers, relie les structures et surtout, il crée les conditions pour que chacun puisse prendre la parole, même ceux qui ne pensaient pas en avoir une à proposer. Ce festival, nous le retrouvons du samedi 6 décembre au dimanche 14 décembre 2024. Ce sera sa 5e édition. Bonjour Loïc, merci d'être avec nous.
Bonjour Margot.
Alors je disais que le Festival des 37 est fait par et pour les habitants. Si tu devais, toi, l'expliquer à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, par où est-ce que tu commencerais ? Par le cinéma ou par les gens ?
Le cinéma. Je commencerai par le cinéma parce que, et c'est mêlé évidemment aux gens, on a l'origine de ce festival, c'est lors d'une petite tournée de théâtre amateur que j'encadrais, où il y a des gens qui m'ont dit ce serait bien qu'on fasse un peu de cinéma, d'une caméra, être devant, qu'est-ce que ça fait, etc. Et on s'est réunis le 16 mai 2013, c'est vraiment l'origine. On s'est réunis aux ateliers d'échange, c'est une structure, un EDI, un espace de découverte et d'initiative. Et ce jour fatidique, je dirais, une personne a dit « mais c'est l'ouverture du Festival de Cannes aujourd'hui ». Et oui, effectivement, c'était l'ouverture du Festival de Cannes. Et d'autres ont dit « ouais, mais pourquoi on n'aurait pas notre festival ?» Et un tapis rouge et des vieilles voitures et ceci, cela. Et en fait, j'ai trouvé l'idée très intéressante. J'aurais dit « bon, on va faire un festival dans le Pays de Cran ». Alors, à la surprise de tout le monde, mais non, on plaisantait, etc. Mais non, c'est possible qu'on fasse un festival. Et voilà, j'ai réuni une équipe de réalisateurs qui se sont mis à proposer des scénarios. Et puis, c'est né comme ça la première fois. Donc, c'est le cinéma, les gens, tout ça est bien mélangé. Des gens qui sont quand même, pour la plupart, qualifiés de disqualifiés sociaux, de gens dans la précarité, de gens isolés principalement, mais se sont joints à eux des gens qui ont eu envie aussi. Alors c'est devenu pour tous, pour tout le monde. Et aujourd'hui, on peut compter 200, 300 personnes qui sont passées dans les ateliers depuis une dizaine d'années, voire un peu plus, on ne compte pas.
On le disait, le festival implique donc les habitants du territoire qui n'ont, pour beaucoup, jamais touché une caméra. Qu'est-ce que ça change dans la manière de concevoir un film et même dans la manière peut-être de regarder son propre territoire, de le filmer ?
Alors, en fait, il y a des ateliers d'écriture qui sont encadrés par Martin Dupetit, qui est scénariste sur Laval. Et les gens écrivent suivant un thème. Cette année, c'est le jeu. Le jeu, je joue donc je suis. Et ils vont s'inspirer de ce thème, ou ce thème va les inspirer, et ils vont écrire des scénarios, une dizaine de scénarios. De là, on sélectionne un peu tout, et il y a environ 7 scénarios qui seront tournés en film, quoi. Donc c'est vraiment, au départ, leur idée, leur imaginaire, leur façon de voir les choses plus que le territoire, en fait. Et voilà, un film va naître comme ça parce qu'ils vont jouer, ils vont participer au décor, ils vont participer à l'ensemble du tournage, sauf la caméra, parce que la caméra, c'est quand même c'est de la technique. Et il faut des professionnels pour encadrer ce genre de festival. Enfin, ces films, le montage aussi, c'est très compliqué. Là, on a une équipe de professionnels très... très, j'allais dire, empathique, très conscient de l'enjeu, conscient des capacités des gens. Et en fait, on s'adapte, on négocie aussi des mots de certains scénarios. On négocie une façon de voir le scénario, voir si ça correspond bien à l'idée que se fait l'auteur du scénario.
On est sur un territoire rural, parfois même un peu isolé. Quels sont les enjeux sociaux qui traversent ce projet derrière l'envie artistique ?
Les enjeux sociaux sont très importants. Il y a une cohésion sociale qui est toujours un peu dominante. Il y a aussi la lutte contre l'isolement, la lutte contre toute forme de discrimination. Ça, c'est vraiment ce qui guide le festival. Il y a une prise en compte de toutes les problématiques social, pas que, parce qu'il y a des gens tout à fait sans problème, sans difficulté, qui participent à ce festival. Mais c'est aussi, au départ, une association entre l'autre vie du papillon, Art Production, qui est une association loi 1901, et le CIAS. C'est au départ ce point. Bon, avec un angle très précis qui est la mise en lien des personnes qui sont isolées, qui sont avec des problématiques parfois psychiques, parfois, enfin bon voilà, c'est un peu tout ce qui ressort de
ces rencontres.
De ces rencontres, ouais.
Qu'est-ce que cette diversité apporte justement au résultat final ? Là, on approche très fortement de la date. Les films sont tournés, montés.
Ouais. Oui, qu'est-ce que ça raconte quand même qu'il y a des films qui sont tournés sur le territoire, mais pas que. On a un film qui est tourné à l'Iliade ici, mais il y a l'Iliade aussi à Snone, Andisnone, à Château-Gontier. Enfin, tout ça, c'est une équipe de jeunes qui se sont mis à faire ce film entièrement. D'ailleurs, c'est complètement eux. Et il y a un film tourné au C2A de Laval, qui c'est des handicaps, enfin c'est un centre d'accueil pour handicapés. Il y a des habitants, une compagnie amateur de Senone justement, qui a créé un film avec Jean-François Castel, qui était l'année dernière, il y a deux ans, le parrain du festival. Et voilà, il y a quand même une motivation. Le festival rayonne maintenant un peu sur tous les territoires. Bon, il reste quand même centré sur le Pays de Cran, mais il y a des ouvertures. On permet à des gens de venir vraiment sans problème. Il y a Olamav aussi qui a fait un film avec Pierrot Desroulottes. Voilà, il y a vraiment une émulation qui commence à se créer au bout de la cinquième édition. Il faut deux ans pour créer ce festival. Hein.
Qu'est-ce qui te touche, toi, le plus personnellement dans les films créés pendant le festival ? Est-ce que c'est le moment de la fabrication, les histoires que les gens amènent dans ces films ? Ou est-ce que même ça se passe au niveau des réactions du public ?
Ah bah c'est un peu tout ça mélangé. Ouais. Hein. Franchement, tu dis beaucoup de choses sur le festival et tu le dis mieux que moi. Parce que je crois que ce qui me fait plaisir, en fait, c'est le jour du tournage. Enfin, si je dois retenir une chose, c'est le jour du tournage. L'émulation qu'il y a, le plaisir que les gens ont à jouer. Vraiment, ça, c'est évident. Il y a une espèce de joie, une joie de vivre qui est évidente. Quoi. Et voilà, ouais, c'est à peu près ça hein, que je retiens. Ouais, c'est cette ambiance générale qui se crée au moment d'une écriture qui est mise en image. Et ça, les gens, c'est un côté magique. On ne se rend pas trop compte maintenant, puisqu'on a des tas d'outils à notre disposition qui peuvent faire des images. Mais quand même, le cinéma reste un endroit ou une possibilité assez magique quand même.
Cette année, le festival accueille comme marraine Marion Gervais. Comment est-ce que tu nous la présenterais pour l'auditeur, peut-être qui ne la connaît pas, et qu'est-ce que son regard, son parcours et sa sensibilité apportent à cette édition ?
Marion, c'est une personne très, très rayonnante, très, très ouverte au monde. Et ce qui est assez normal pour une documentariste, mais alors elle se concentre, elle, sur des films plutôt à caractère social, et elle a un regard tout à fait particulier, tout à fait optimiste. Quand on regarde ses films, après on a une sorte d'enthousiasme à la vie, et elle filme très très bien la vie, quoi.
On pourra justement avoir un temps de rencontre avec Marion, ça se passera le vendredi 12. Et puis ensuite la projection
de Louis dans la vie
le lundi 8 décembre à 21h, oui. Voilà, donc Louis dans la vie à l'espace culturel Saint-Clément à Cran, et donc il y aura un échange
avec la documentariste Marion.
Comment tu présenterais un peu cette programmation du festival pour l'auditeur qui n'y est jamais allé, se dire, tiens, s'il y a quand même peut-être trois temps importants à ne pas manquer, ce seraient lesquels ?
Bah, je crois que la journée du mardi est... mais il y a tout. Cette année, il y a un loto, on a fait un loto culturel, ce qui est nouveau et ce qu'il faut vraiment, vraiment souligner, parce qu'on s'est dit que des gens seraient contents de venir jouer, parce que c'est le jeu. Et ça a lieu à Renazé, ce temps-là, à partir de... les portes s'ouvrent à 14h. Et c'est important, ça, ce temps. On voudrait vraiment stimuler les gens à venir jouer et à être dans le festival, quand même. Voilà. Il y a aussi le mardi où il y a Mamouche, qui est un clown assez exceptionnel, qui va jouer un spectacle. Il y a ensuite Louis dans la vie. C'est quand même un très beau film sur Louis, qui a 18 ans, qui est à la croisée des chemins. Va-t-il continuer dans la délinquance ou rentrer dans les clous ? Alors voilà, c'est un très beau documentaire. Et puis, il y a... Enfin, tous les jours sont passionnants. Hein. Mais il y a le jeudi 11, il y a à Renazé aussi, à la salle Omnisport, un spectacle. C'est l'arrière-pays. Et c'est un très beau spectacle. C'est très intéressant sur le jeu aussi. Bien sûr, puisque le thème, c'est vraiment...
C'est ce qui traverse toute la programmation, finalement.
Et alors, il y a la compétition nationale des courts-métrages. Ça, c'est important, le samedi, des courts-métrages nationaux. Et ça va être vraiment intéressant de voir. Les gens vont voter pour le meilleur. Enfin, ce qu'ils considèrent être comme le meilleur. Et on aura Anaïs en va-t-en guerre, le deuxième le documentaire d'Anaïs. Mais enfin, c'est une programmation très, très chargée. Il y a trois longs métrages, Jeux interdits, il y a La baie des anges et L'arnaque. Et ça fait une belle programmation. Tous ces temps sont gratuits, il faut le rappeler. Hein. C'est vraiment un temps incroyable. Et puis, je crois que c'est une belle programmation, comme tous les deux ans. On a mis tout ce qu'on avait dans notre valise à film. Et puis, on invite les gens à venir, évidemment, le plus nombreux possible.
L'ouverture, c'est complet.
Et la clôture, il y a encore beaucoup de place. Enfin, c'est plus grand. Déjà, l'ouverture, c'est à Renazé, c'est une salle de 220 places, et c'est complet, mais bon.
Il reste 9 jours pour l'ensemble de la programmation. Il faut aussi rappeler, finalement, ça se passe à Renazé, ça se passe aussi à Cran, à Château-Gontier, à Saint-Poix, à la Selle Craonnaise, à Quelaine-Saint-Gaud, Congrillé, Saint-Plé. Enfin, l'idée, c'est vraiment justement de parcourir
de rayonner. On rayonne sur le territoire. Il faut dire aussi que cette année, nous avons les vieilles soupapes, qui viennent amener les acteurs, les musiciens sur le tapis rouge. C'est important parce que les vieilles soupapes, on a vraiment à cœur de les accueillir, et puis du service qu'ils nous rendent aussi, de rendre toute notre gratitude à cette association de vieilles voitures, absolument.
Et alors, l'ensemble de la programmation est disponible sous forme de brochures en format papier, mais aussi sur Internet, Loïc.
Oui, sur Internet, vous trouverez en tapant le Pays de Cran, voilà.
Voilà, ne pas hésiter à noter dans son agenda les différentes dates qui nous intéressent. Loïc, pour terminer, qu'est-ce que tu espères, toi, que le spectateur emporte avec lui en sortant du festival ?
Je pense qu'il va découvrir un certain nombre de films, donc il va aiguiser sa curiosité, il va découvrir des personnes aussi, des gens, des vrais gens, comme on dit, qui ont fait un effort incroyable, et puis il ressortira avec enthousiasme, j'espère. Et beaucoup de plaisir, évidemment, à venir à ce festival. C'est une ambiance, hein. C'est vraiment, ça sort de tous les autres festivals assez classiquement présentés, mais c'est une ambiance. Il faut venir voir, il faut venir sentir l'ambiance, il faut goûter ce plaisir du cinéma.
Et donc, je rappelle les dates à l'auditeur de l'autre radio qui nous a rejoint en cours de route. Le festival donc des 37 a lieu du 6 au 14 décembre. Et alors, le thème cette année, c'est le jeu. Je joue, donc je suis. Merci beaucoup, Loïc, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci à toi.
Et je pense que ma rupture, justement, c'est juste de la rupture avec la salle Pleyel. C'est très important parce que c'est presque comme dire un moment de dire merde. J'ai ras le bol. Tu vois, avec cette sérieux de la vie.
L'autre radio.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Ce matin, ma mission, c'est d'aller à la ferme de la Marajotière, une ferme maraîchère à Couëron, 10 km de Nantes. Il fait vraiment pas chaud ce matin. C'est tout gelé partout. Voilà, je vais essayer de faire avancer le vélo jusque-là. Et là-bas, je vais y rencontrer Camille Bouet, qui a monté l'entreprise La Main Levée et qui organise la rencontre entre deux mondes. Et elle va nous raconter quelle est son idée.
Tu viens d'où ?
De Nantes.
Ok, ok.
C'est bon, on est tout là.
Ouais, et ben on va se poser. Bon, moi je suis Camille, c'est moi qui organise la journée à la ferme en partenariat du coup avec Simon parce que c'est quand même sympa. On va laisser Agathe partir. Donc moi j'en ai fait, voilà, c'est mon activité professionnelle de faire du lien entre, en tout cas pour l'instant, la ferme de Simon et le monde de l'entreprise. Et donc j'organise des séminaires d'entreprise avec Simon sur sa ferme. Et donc j'avais déjà accueilli Guillaume ici au mois de juin avec Boss to Boss. Donc,
plantation d'épinards, petite motte. Hop.
Moi j'étais avant donc ingénieur data analyst, donc c'était dans l'informatique. J'ai quitté en janvier 2024 et j'habite Couëron. Et donc l'idée de créer une journée pour les entreprises à la ferme, c'est l'idée première, c'est de recréer du lien entre le monde agricole et le monde de l'entreprise. C'est, voilà, on est tous et toutes dans notre bulle, ce qu'on appelle un peu la bulle sociale. Et je trouve que l'enjeu en ce moment, c'est de recréer du lien entre des bulles différentes et de la connexion et des échanges.
Alors peut-être un poil moins.
Donc oui, il est essentiel ce lien en fait à l'agriculture, à la terre.
Bah, il y a plusieurs sens pour moi. Il y a l'idée que littéralement remettre les mains dans la terre, en tout cas ponctuellement comme on le fait là pour aujourd'hui pour Ipresia, ça fait du bien. C'est vrai que ça fait du bien.
Repiquage, c'est deux doigts, clac, clac, terminé.
Répartissez-vous peut-être là, vous êtes tous au même endroit.
Oui. Et ben moi c'est Simon, Bernard, mon famille. Et je suis maraîcher diversifié sur les hauteurs de Couëron. C'est la fin du massif armoricain. Donc on est allé à 30 et quelques mètres d'altitude, au-dessus du lit de la Loire. Là on est sur des terrains qui sont quand même des très bons terrains pour Couëron. t'as beaucoup d'endroits où t'as très peu de sol. T'as 15 cm de sol, et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'élevage à quoi. C'est pas propice aux cultures. Là, on est sur une veine sableuse et avec de la profondeur de sol. Puis là, on est à peu près sur l'endroit où c'est les meilleurs terrains. T'as 80 cm de sol avant d'arriver sur la dalle. Donc c'est plutôt très très bien pour Couéron.
Okay. En termes de niveau, le haut de la motte, c'est à peu près ça, quoi. Pas que ce soit trop creux, sinon t'as de l'eau qui va s'accumuler, ça fait une cuvette, t'as du champi qui se développe. Pas que ce soit trop haut, sinon ça peut dessécher la motte.
Vous êtes où habituellement à la même heure là? Il est 10h40.
On est en pause.
Dans 5 minutes.
Dans 5 minutes.
Dans 5 minutes, quelqu'un fait le tour des bureaux pour dire.
Pré-pause.
C'est la pause.
Je vais faire de l'autre côté du coup.
Donc ça fait 5 minutes que vous repiquez là.
Ouais.
Vous en dites quoi?
Bah c'est très sympa. Ouais. Ça fait changer un peu d'activité par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire.
Ça
c'est chouette déjà.
De toucher autre chose qu'un clavier quoi.
Ouais, totalement. Ouais.
Et comment la terre là ce matin?
Bah moi de mon côté elle est un peu dure.
C'est dur ouais.
Un peu ouais. Mais bon ça va.
Ouais ça se fait hein.
Ouais. T'as pas besoin d'outils pour le faire, c'est bon.
Moi, Guillaume Garino. Je suis un des deux gérants de l'entreprise. Ypresia, Ypresia.
L'entreprise de...
On fait des logiciels pour les collectivités dans toute la France. En particulier dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Donc du coup, l'eau et les sols, ça nous parle. Et c'est aussi pour ça qu'on vient plutôt dans une exploitation bio. Parce que voilà, on veut encourager des pratiques plutôt vertueuses. Et puis bah, nous, voilà, comme on est plutôt toute la journée devant des ordis, au chaud dans nos locaux, on a besoin aussi de s'évader, d'ouvrir un peu nos esprits et de revenir un peu trouver du contact avec la terre. Et donc gratter, s'aérer, un peu retrouver de la créativité. Et puis du sens quoi dans ce qu'on fait.
Pour vous dire, là on va aller faire un petit nettoyage de tunnel de tomates.
Ton métier habituellement c'est quoi?
Chef de projet en informatique pour un logiciel d'assainissement de l'eau.
Très différent de retirer des ficelles de pieds de tomates.
Ouais, hein, ça fait du bien de changer.
Oh, t'as cassé la ficelle?
J'ai cassé la ficelle.
Pensée locale, un enjeu de société.
On met pas le plastique dans le compost. Nous, notre créneau, c'est clairement la paysannerie. C'est de rester à des échelles où l'humain a encore sa place dans des entreprises agricoles. Quoi. La production agriculture biologique est un label. Production AB, le créneau, c'est de dire bon bah en fait on veut produire. Alors évidemment sans produit de chimie de synthèse, sans OGM, sans plein de choses qui seraient délétères sur et la biodiversité et l'environnement en général et la santé humaine et justement les sols. La vie du sol aujourd'hui dans l'agriculture en général, même pas française, elle est plutôt malmenée. Et du coup, bah, au plus t'as un sol vivant, au moins t'auras de problèmes en tout cas et parasitaires et de maladies sur tes productions. Et puis ça va bien au-delà d'ailleurs de nos productions agricoles, ça va sur l'environnement en général. Un sol en vie évite par exemple des phénomènes de lessivage et d'érosion liés aux pluies par exemple. Donc ici on fait attention à tout ça. Et pour vous dire par exemple on essaye de ne pas laisser du sol nu l'hiver. C'est basique, hein, les paysans faisaient ça depuis tout temps, sauf que en fait ça s'est un peu perdu avec l'industrialisation de l'agriculture. Idéalement, en fait, sur le travail du sol en maraîchage bio, on essaye de ne pas trop retourner les horizons. Il faut imaginer qu'un sol, c'est un millefeuille.
Dans tout ce que tu proposes, il y a aussi une activité autour des sols et quelque chose qui s'appelle la fresque des sols.
Oui.
Est-ce que tu peux nous en dire un mot?
Oui. Je suis animatrice de la fresque du sol. Une des fresques les plus connues s'appelle la fresque du climat, pour ceux ou celles qui connaissent. Et c'est sur la même pédagogie, c'est-à-dire qu'il y a un jeu de cartes de 50 cartes et les participants de cet atelier qui dure 3 heures vont pouvoir manipuler ces cartes et créer des liens en fait entre ces cartes. Et au bout de 3 heures, le but c'est de ressortir avec plus de connaissances sur comment fonctionne un sol, l'importance du sol et les menaces qui pèsent sur les sols. Et du coup, la dernière heure, c'est quand même sur comment on se met en action pour atténuer ces menaces. Moi, la première fois que j'ai participé à cet atelier, je me suis surprise à me dire qu'en fait, ce avec quoi je m'habille, je me chauffe, je me loge, je mange, ça vient du sol, en fait, tout vient du sol. Et donc, effectivement, si à un moment donné, et c'est déjà le cas, 60% des sols sont dégradés en Europe, il va y avoir un impact sur notre façon de vivre. Cet atelier-là permet de rendre visible le fait qu'on peut se mettre en marche donc à tous les niveaux. Moi, en tant que Camille Boué, habitante de Couëron, mais moi aussi dans mon activité professionnelle ou dans ma ville aussi de Couëron, donc dans ma commune. Pareil pour les entreprises. Enfin, une entreprise, par exemple, qui travaille dans le digital, va pas voir le lien direct avec le sol, alors qu'en fait, tout le matériel numérique, tous les composants viennent du sol. Les matériaux rares, tout ça vient du sol, en fait. Donc même ce qui est totalement déconnecté du sol et qu'on utilise tous les jours dans le digital vient du sol. Et c'est intéressant de le remettre à jour, quoi.
Bah, bonne suite de journée.
C'était Pensée locale, un enjeu de société.
Salut.
Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Un reportage réalisé dans le cadre de la Journée mondiale des sols du 4 au 6 décembre à Angers.
Un reportage de Romain Méril pour Jet FM. Hey,
oh, let's go. Chapi, chapi, chapeau, chapi, chapi, chapeau, chapi, chapi, chapeau.
Alors pourquoi du coup faire ça ?
Qu'on arrête de les prendre pour des cons, quoi. Ils sont jeunes et ils ont des choses à dire, ils ont des choses à faire, à prouver aussi. Mais voilà, ils le font bien, je pense.
C'est un peu fort.
Sur l'autre radio, sur l'autre.
La chronique du FC que choisir 53 avec Jean-Michel Guinaudeau.
Bonjour Jean-Michel Guinaudeau, nous arrivons bientôt à la fin de l'année. Comment bien préparer la nouvelle ?
Bonjour Margot. C'est le moment de faire le point de ces contrats et abonnements, dont beaucoup arrivent à échéance au 31 décembre. Assurance habitation, responsabilité civile, assurance accident de la vie, assistance ou protection juridique, mutuelle santé, etc. Il est prudent d'avoir un exemplaire papier de ces documents, ce qui permet d'en prendre connaissance aisément. Un classement par année est préconisé. Ces contrats et leurs annexes sont à conserver tant que l'on est assuré. Évidemment, si l'on possède un ordinateur, on peut en avoir une copie informatique sur un support fiable, comme un disque dur ou externe ou une clé USB. Il faut aussi soigneusement conserver les codes d'accès de l'espace personnel que l'on a ouvert pour chacun des organismes. Enfin, vérifier que toutes ces assurances sont encore utiles. Par exemple, l'assurance d'un téléphone portable de plus de 3 ans ne sert à rien.
Que faire quand on nous annonce une hausse de tarifs ?
Bien, si ces organismes augmentent leurs tarifs, ils doivent vous faire parvenir, au moins un mois avant l'échéance, un avis vous précisant évidemment le nouveau tarif et la possibilité de résilier ces contrats sans frais. Il faut prendre le temps de bien lire ces documents et ne pas hésiter à prendre contact avec le correspondant local, qui peut être une agence, un courtier, pour voir quelles sont les possibilités d'échapper à cette augmentation. Mais attention, une baisse de tarif signifie souvent un changement de contrat, et malheureusement, une baisse des garanties. La situation des familles change au fil du temps, et cela peut nécessiter une modification du contrat d'assurance, si un enfant devient majeur par exemple. Pour les assurances habitation, il faut vérifier le montant garanti. Il peut être trop élevé au regard de la valeur des meubles, ou au contraire, pas assez, si des travaux de rénovation ont été réalisés. Avez-vous signalé à votre assureur que vous avez fait installer des panneaux photovoltaïques ?
Vous nous conseillez d'avoir des documents papier. Quelle est leur durée de conservation préconisée ?
Les documents à conserver sans limite de durée sont les justificatifs de revenus qui pourront être utilisés lors de la liquidation de la retraite. Les organismes de retraite disposent théoriquement de tous ces justificatifs. Mais les erreurs et oublis ne sont pas rares, surtout si l'on a une carrière un peu chaotique. Certaines entreprises ne délivrent plus de fiches de salaire papier, mais utilisent un coffre-fort numérique. Et comme on n'est pas à l'abri d'une rupture du cloud, mieux vaut en faire une copie papier et une copie numérique personnelle. Les contrats, quels qu'ils soient, sont à garder tant qu'ils sont en vigueur. Les factures et justificatifs de paiement sont à garder au moins 2 ans, mais il faudrait aller jusqu'à 10 ans si l'on a de la place. Et si vous avez fait des travaux importants, nous conseillons de garder tous les documents, car ils peuvent contenir des références de matériel pouvant être utiles en cas de réparation. Il faut donc, en cette fin d'année, prendre un temps pour se pencher sur la gestion administrative de sa vie. Et si vous avez une question sur un domaine particulier, notre association pourra sans doute y répondre.
Merci Jean-Michel Guinaudot. Rappelez-nous les coordonnées de votre association.
Le FC Que Choisir de la Mayenne est joignable du lundi matin au vendredi midi de 9h à 12h et de 14h à 17h au 02 43 67 01 18 par mail à contact@mayenne.ufckechoisir.fr ou sur notre site mayenne.ufckechoisir.fr pour un renseignement ou un rendez-vous à Laval ou Château-Gontier. Et bien sûr, pour nous proposer vos services. À bientôt.
Restez sur l'autre radio, vous avez rendez-vous avec Novorama à 19h, à 21h avec Chaosphere qui débutera avec le plus grand groupe de métal portugais pour aller ensuite en Allemagne et autres. Je vous souhaite une belle journée sur l'autre radio et ou ailleurs.